Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Dans quelques minutes, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard. Mais tout de suite, à 8h40, la revue de presse avec Adeline François. Et dans la presse ce matin, serrer les rangs.
C'est l'histoire d'abord d'une famille qui a su serrer les rangs. Serrer les rangs pour Mathieu, un petit bonhomme aujourd'hui âgé de 4 ans et demi. Le 13 juin 2016, ses parents étaient assassinés chez eux à Magnanville par un homme se revendiquant de Daesh. Mathieu était le fils de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Les policiers le découvrent dans un état de sidération après l'assaut. Quelques heures plus tard, Mathieu est transporté à l'hôpital Necker pour enfants de Paris. Pour décrire ce qu'il venait de voir, il avait empoigné un gorille en peluche qui s'attaquait à un petit Playmobil. C'est le site de l'Express qui a voulu savoir ce qu'était devenu le bambin 12 mois plus tard. Les nouvelles du petit orphelin sont rassurantes. Il a l'air très heureux et épanoui dans son malheur. Il a eu la chance d'avoir une grande famille unie derrière lui, explique aujourd'hui sa grand-mère. Désormais âgé de 4 ans et demi, donc, Mathieu vit chez sa tante à Pézenas dans l'Hérault. La justice vient de lui accorder la tutelle d'un commun accord familial. Il grandit donc avec ses deux cousins et sont élevés comme des frères. La psychologue qui suit Mathieu toutes les semaines est impressionnée par sa reconstruction. Ni cauchemar, ni terreur nocturne. Une capacité de résilience admirable, dit-elle. La famille n'a pas encore décidé si elle allait entamer des démarches pour que Mathieu devienne pupille de la nation.
Dans la presse aussi ce matin, l'entre-deux-tours des législatives.
C'est un nouveau casse-tête, un casse-tête de plus pour la future majorité. On se demandait il y a quelques jours par quelle porte allaient entrer les députés de La République En Marche, à droite ou à gauche. Eh bien, une autre question, les tarots d'à présent. Mais où vont-ils donc réunir leur groupe? Les projections parlent de 415 à 455 élus En Marche. Et, nous dit Le Monde, hormis l'hémicycle du Palais Bourbon, la plus grande salle de l'Assemblée nationale, c'est la salle Victor Hugo qui peut contenir 350 personnes. Va falloir se serrer. Maintenant, il va falloir aussi assurer, comme le titre en une Le Parisien aujourd'hui en France, car si certains s'inquiètent de ces questions logistiques, d'autres s'interrogent sur l'entrée de députés sans expérience à l'Assemblée nationale. Ils vont devoir subir une formation accélérée, explique Le Parisien. Un séminaire de travail et de cohésion est même prévu dès la semaine prochaine pour initier les heureux élus aux arcanes de l'Assemblée. Ils pourront aussi lire un fameux livre, Le Manuel de survie à l'Assemblée nationale, écrit par un certain Jean-Jacques Urvoas, battu par une candidate En Marche dimanche dans le Finistère.
Serrer les rangs, mot d'ordre à gauche et à droite, avant le second tour.
Oui, après la vague En Marche, droite, gauche et FN sous le choc, titre Le Figaro à sa une, tandis que l'opinion cherche à expliquer les raisons d'un tsunami, notamment à travers la dépersonnalisation du scrutin qui a sans doute atteint son apogée dimanche. C'est pour la gauche que la presse a la dent la plus dure en fait aujourd'hui. En une de Libération, la photo d'une plaine désertique. La gauche, plus rien, titre Libé, qui a fait le calcul, il n'y aura pas plus de 50 députés de gauche dimanche prochain. Éclatés, atomisés, miniaturisés, c'est désormais une nano-gauche qu'on parquera dans une réserve, tel un peuple premier, vestige sympathique d'un temps révolu, ironise Laurent Geoffrin. En fait, on a échoué à transformer la vie des gens, dit un député battu à Toulouse. La chute dans la maison Cambadélis, racontée aussi ce matin dans le Figaro, qui rappelle le petit surnom qu'on avait donné au patron du PS, Au Malais, le chat de gouttière des Aristochats qui, vous savez, retombe toujours sur ses pattes. Sa dernière chute, ce sera son bilan, écrit François-Xavier Bourmeau dans le Figaro. Le Parisien, de son côté, raconte aussi comment François Hollande a appelé hier matin quelques-uns des socialistes perdants pour les réconforter. Il m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas de ma défaite personnelle. Je n'ai pas osé lui demander de qui c'était la défaite, alors confie un candidat éliminé. Façon de serrer les rangs.
Ou en rejoindre d'autres.
Oui, parce que le journal L'Opinion s'intéresse, lui, à l'avenir professionnel de tous ces battus. Alors qu'ils soient rassurés, ce sont des profils à forte employabilité, assure un chasseur de tête. Ils peuvent faciliter la relation avec l'administration, aider à implanter une usine localement. Mais alors attention, la couleur politique peut faire peur. Et les candidats des partis extrêmes sont ceux qui auront le plus de mal à se recaser. Les députés bénéficient aussi d'une possibilité d'équivalence en droit pour devenir avocat. En attendant, ce n'est pas Pôle emploi qui va les indemniser, mais la Caisse des dépôts qui leur verse une allocation dégressive pendant maximum 3 ans à ceux qui ne sont pas réélus et qui ne sont pas encore à la retraite. Alors, on a cherché quelques idées de reconversion dans la presse. Dans le Figaro, par exemple, l'État cherche des agents immobiliers. Un rapport sénatorial épingle la gestion du patrimoine de l'État, valorisé à hauteur de 66 milliards d'euros. L'État est propriétaire de 75 millions de mètres carrés, dont 22 millions qui sont inoccupés. Ça pourrait faire des sous, hein. Bon, en revanche, évitez d'ouvrir un café, hein. Les Échos publient ce matin un chiffre, le chiffre d'affaires des bars et cafés traditionnels qui a reculé de 10% depuis 6 ans. Et alors là aussi, il y a deux France, hein. Les cafés des zones rurales et de la périphérie des agglomérations ferment, mais ceux des grandes villes se renforcent. Et c'est peut-être un échec en fait d'Emmanuel Macron. Les ouvertures de bars se font uniquement par transfert de licence 4, autorisée au niveau régional depuis l'application de la loi Macron de 2016. L'objectif était alors de favoriser la réouverture des petits bars, mais c'est pas du tout le cas et c'est dommage. On est à peu près sûr que personne n'aurait rien trouvé à redire à cette stratégie d'ouverture et de renouvellement.
C'était la revue de presse Sylvia d'une France. On peut peut-être prendre un député pour la revue de presse, remarquez.
Ah bah appelez-les, hein. Il y a peut-être des candidats.
Allez, on se retrouve demain.